Chapitre 5. Un enlèvement. Herlock Sholmès ne broncha pas. Protester ? Accuser ces deux hommes ? C'était inutile. À moins de preuves qu'il n'avait point et qu'il ne voulait pas perdre son temps à chercher, personne ne le croirait. Tout crispé, les poings serrés, il ne songeait qu'à ne pas trahir devant Ganimard triomphant sa rage et sa déception. Il salua respectueusement les frères Leroux, soutien de la société, et se retira. Dans le vestibule, il fit un crochet vers une porte basse qui indiquait l'entrée de la cave et ramassa une petite pierre de couleur rouge. C'était un grenat. Dehors, s'étant retourné, il lut près du numéro 40 de la maison cette inscription. Lucien d'Estange, architecte, 1877. Même inscription au numéro 42. Toujours la double issue, pensa-t-il. Le 40 et le 42 communiquent. Comment n'y ai-je pas songé? J'aurais dû rester avec les deux agents cette nuit. Il dit à ses hommes, « Deux personnes sont sorties par cette porte pendant mon absence, n'est-ce pas ?» Et il désignait la porte de la maison voisine.
« Oui, un monsieur et une dame. »
Il prit le bras de l'inspecteur principal et l'entraînant, « Monsieur Ganimard, vous avez trop ri pour m'en vouloir beaucoup du petit dérangement que je vous ai causé. »« Oh, je ne vous en veux nullement, n'est-ce pas ?» Mais les meilleures plaisanteries n'ont qu'un temps. Et je suis d'avis qu'il faut en finir. Je le partage. Nous voici au 7e jour. Dans 3 jours, il est indispensable que je sois à Londres. Ah ah ! J'y serai, monsieur. Et je vous prie de vous tenir prêt dans la nuit de mardi à mercredi.
Pour une expédition du même genre ?
Fit Ganimard, gouailleur.
Oui, monsieur, du même genre.
Et qui se terminera ?
Par la capture de Lupin.
Vous croyez ?
Je vous le jure sur l'honneur, monsieur.
Sholmès salua et s'en fut prendre un peu de repos dans l'hôtel le plus proche. Après quoi, ragaillardi, confiant en lui-même, il retourna rue Chalgrin, glissa 2 louis dans la main de la concierge et s'assura que les frères Leroux étaient partis. Apprit que la maison appartenait à un monsieur Arminja, et, muni d'une bougie, descendit à la cave par la petite porte auprès de laquelle il avait ramassé le grenat. Au bas de l'escalier, il en ramassa un autre de forme identique.
« Je ne me trompais pas, » pensa-t-il. « C'est par là qu'on communique. Voyons, ma clé passe-partout ouvre-t-elle le caveau réservé au locataire du rez-de-chaussée ? Oui, parfait !» « Examinons ces casiers de vin. Ah, oh, voici des places où la poussière a été enlevée. Oh, et par terre, des empreintes de pas. »
Un bruit léger lui fit prêter l'oreille. Rapidement, il poussa la porte, souffla sa bougie et se dissimula derrière une pile de caisses vides. Après quelques secondes, il nota qu'un des casiers de fer pivotait doucement, entraînant avec lui tout le morceau de muraille auquel il était accroché. La lueur d'une lanterne fut projetée. Un bras apparut. Un homme entra. Il était courbé en deux comme quelqu'un qui cherche. Du bout des doigts, il remuait la poussière, et plusieurs fois il se releva et jeta quelque chose dans une boîte en carton qu'il tenait de la main gauche. Ensuite, il effaça la trace de ses pas, de même que les empreintes laissées par Lupin et la dame blonde, et il se rapprocha du casier. Il eut un cri rauque et s'effondra. Sholmès avait bondi sur lui. Ce fut l'affaire d'une minute, et de la façon la plus simple du monde, l'homme se trouva étendu sur le sol, les chevilles attachées et les poignets ficelés. L'Anglais se pencha.
« Combien veux-tu pour parler, pour dire ce que tu sais ?»
L'homme répondit par un sourire d'une telle ironie que Sholmès comprit la vanité de sa question. Il se contenta d'explorer les poches de son captif. Mais cette investigation ne lui valurent qu'un trousseau de clés, un mouchoir et la petite boîte en carton dont l'individu s'était servi et qui contenait une douzaine de grenats, pareils à ceux que Sholmès avait recueillis. Maigre butin. En outre, qu'allait-il faire de cet homme ? Attendre que ses amis vinssent à son secours et les livrer tous à la police ? À quoi bon ? Quel avantage en tirerait-il contre Lupin ? Il hésitait quand l'examen de la boîte le décida. Elle portait cette adresse : Léonard, bijoutier, rue de la Paix. Il résolut tout simplement d'abandonner l'homme. Il repoussa le casier, ferma la cave et sortit de la maison. D'un bureau de poste, il avertit M. Destange, par petit bleu, qu'il ne pourrait venir que le lendemain. Puis il se rendit chez le bijoutier, auquel il remit les grenats.
« Madame m'envoie pour ses pierres. Elles se sont détachées d'un bijou qu'elle a acheté ici. »
Sholmès tombait juste. Le marchand répondit « En effet, cette dame m'a téléphoné. Elle passera tantôt elle-même. » Ce n'est qu'à 5 heures que Sholmès, posté sur le trottoir, aperçut une dame enveloppée d'un voile épais et dont la tournure lui sembla suspecte. À travers la vitre, il put la voir qui déposait sur le comptoir un bijou ancien orné de grenats. Elle s'en alla presque aussitôt, fit des courses à pied, monta du côté de Clichy et tourna par des rues que l'anglais ne connaissait pas. À la nuit tombante, il pénétrait derrière elle, et sans que la concierge l'avisât, dans une maison à 5 étages, à 2 corps de bâtiment et, par conséquent, à innombrables locataires. Au 2e étage, elle s'arrêta et entra. 2 minutes plus tard, l'anglais tentait la chance et, les unes après les autres, essayait avec précaution les clés du trousseau dont il s'était emparé. La 4e fit jouer la serrure. À travers l'ombre qui les emplissait, il aperçut des pièces absolument vides, comme celles d'un appartement inhabité, et dont toutes les portes étaient ouvertes. Mais au bout d'un couloir, la lueur d'une lampe filtra, et s'étant approché sur la pointe des pieds, il vit, par la glace sans teint qui séparait le salon d'une chambre contiguë, la dame voilée qui ôtait son vêtement et son chapeau, les déposait sur l'unique siège de cette chambre et s'enveloppait d'un peignoir de velours. Et il la vit aussi s'avancer vers la cheminée et pousser le bouton d'une sonnerie électrique. Et la moitié du panneau qui s'étendait à droite de la cheminée s'ébranla, glissa selon le plan même du mur et s'insinua dans l'épaisseur du panneau voisin. Dès que l'entrebâillement fut assez large, la dame passa et disparut, emportant la lampe. Le système était simple. Sholmès l'employa. Il marcha dans l'obscurité à tâtons, mais tout de suite, sa figure heurta des choses molles. À la flamme d'une allumette, il constata qu'il se trouvait dans un petit réduit encombré de robes et de vêtements qui étaient suspendus à des tringles. Il se fraya un passage et s'arrêta devant l'embrasure d'une porte close par une tapisserie, ou du moins par l'envers d'une tapisserie. Et son allumette s'étant consumée, il aperçut de la lumière qui perçait la trame lâche et usée de la vieille étoffe. Alors, il regarda. La dame blonde était là, sous ses yeux, à portée de sa main. Elle éteignit la lampe et alluma l'électricité. Pour la première fois, Sholmès put voir son visage en pleine lumière. Il tressaillit. La femme qu'il avait fini par atteindre après tant de détours et de manœuvres n'était autre que Clotilde d'Estange. Clotilde d'Estange, la meurtrière du baron d'Autrec et la voleuse du diamant bleu. Clotilde d'Estange, la mystérieuse amie d'Arsène Lupin. La dame blonde, enfin ! Eh oui, parbleu ! Pensa-t-il,
je ne suis qu'un âne batté. Parce que l'amie de Lupin est blonde et Clotilde brune, je n'ai pas songé à rapprocher les deux femmes l'une de l'autre. Comme si la dame blonde pouvait rester blonde après le meurtre du baron et le vol du diamant.
Sholmès voyait une partie de la pièce, élégant boudoir de femme orné de tentures claires et de bibelots précieux. Une méridienne d'acajou s'allongeait sur une marche basse. Clotilde s'y était assise et demeurait immobile, la tête entre ses mains. Et, au bout d'un instant, il s'aperçut qu'elle pleurait. De grosses larmes coulaient sur ses joues pâles, glissaient vers sa bouche, tombaient goutte à goutte sur le velours de son corsage. Et d'autres larmes les suivaient indéfiniment, comme surgies d'une source inépuisable. Et c'était le spectacle le plus triste qui fût que ce désespoir morne et résigné qui s'exprimait par la lente coulée des larmes. Mais une porte s'ouvrit derrière elle. Arsène Lupin entra. Ils se regardèrent longtemps, sans dire une parole. Puis il s'agenouilla près d'elle, lui appuya la tête sur sa poitrine, l'entoura de ses bras, et il y avait dans le geste dont il enlaçait la jeune fille une tendresse profonde et beaucoup de pitié. Il ne bougeait pas. Un doux silence les unit et les larmes coulaient moins abondantes. « J'aurais tant voulu vous rendre heureuse, » murmura-t-il.
« Je suis heureuse. »
« Non, puisque vous pleurez. Vos larmes me désolent, Clotilde. » Malgré tout, elle se laissait prendre au son de cette voix caressante et elle écoutait, avide d'espoir et de bonheur. Un sourire amollit son visage, mais un sourire si triste encore. Il la supplia. « Ne soyez pas triste, Clotilde. Vous ne devez pas l'être. Vous n'en avez pas le droit. » Elle lui montra ses mains blanches, fines et souples, et dit gravement « Tant que ces mains seront mes mains, je serai triste, Maxime. Mais pourquoi ? Elles ont tué. » Maxime s'écria « Taisez-vous, ne pensez pas à cela. Le passé est mort. Le passé ne compte pas. » Et il baisait ses longues mains pâles, et elle le regardait avec un sourire plus clair, comme si chaque baiser eût effacé un peu de l'horrible souvenir. « Il faut m'aimer, Maxime. Il le faut parce qu'aucune femme ne vous aimera comme moi. Pour vous plaire, j'ai agi. J'agis encore. Non pas même selon vos ordres, mais selon vos désirs secrets. J'accomplis des actes contre lesquels tous mes instincts et toute ma conscience se révoltent. Mais je ne peux pas résister. Tout ce que je le fais machinalement parce que cela vous est utile et que vous le voulez. Et je suis prête à recommencer demain et toujours. » Il dit avec amertume « Ah, Clotilde, pourquoi vous ai-je mêlé à ma vie aventureuse? J'aurais dû rester le Maxime Bermond que vous avez aimé il y a 5 ans et ne pas vous faire connaître l'autre homme que je suis. » Elle dit très bas « J'aime aussi cet autre homme, et je ne regrette rien. » « Si, vous regrettez votre vie passée, la vie au grand jour. » « Je ne regrette rien quand vous êtes là, » dit-elle passionnément. « Il n'y a plus de faute, il n'y a plus de crime quand mes yeux vous voient. Que m'importe d'être malheureuse loin de vous et de souffrir et de pleurer et d'avoir horreur de tout ce que je fais. Votre amour efface tout. J'accepte tout. Mais il faut m'aimer. » « Je ne vous aime pas parce qu'il le faut, Clotilde, mais pour l'unique raison que je vous aime. « En êtes-vous sûre ? » dit-elle toute confiante. « Je suis sûre de moi comme de vous. Seulement, mon existence est violente et fiévreuse. Je ne puis pas toujours vous consacrer le temps que je voudrais. » Elle s'affola aussitôt. « Qu'y a-t-il ? Un danger nouveau ? Vite, parlez ! Oh, rien de grave encore. Pourtant... « Pourtant, eh bien, il est sur nos traces. »« Sholmès ?»«
Oui, c'est lui qui a lancé Ganimard dans l'affaire du restaurant hongrois. C'est lui qui a posté cette nuit les deux agents de la rue Chalgrin. J'en ai la preuve. Ganimard a fouillé la maison ce matin et Sholmès l'accompagnait. En outre...
En outre?
Eh bien, il y a autre chose. Il nous manque un de nos hommes, Janio.
Le concierge?
Oui. Mais c'est moi qui l'ai envoyé ce matin, rue Chalgrin, pour ramasser des grenats qui étaient tombés de ma poche.
Il n'y a pas de doute. Sholmès l'aura pris au piège.
Nullement. Les grenats ont été apportés au bijoutier de la rue de la Paix.
Alors, qu'est-il devenu depuis?
Oh, Maxime, j'ai peur.
Il n'y a pas de quoi s'effrayer. Mais j'avoue que la situation est très grave. Que sait-il? Où se cache-t-il? Sa force réside dans son isolement. Rien ne peut le trahir.
Que décidez-vous?
L'extrême prudence, Clotilde. Depuis longtemps, je suis résolu à changer mon installation et à la transporter là-bas, dans l'asile inviolable que vous savez. L'intervention de Sholmès brusque les choses. Quand un homme comme lui est sur une piste, on doit se dire que, fatalement, il arrivera au bout de cette piste. Donc, j'ai tout préparé. Après-demain, mercredi, le déménagement aura lieu. À midi, ce sera fini. À 2 heures, je pourrai moi-même quitter la place, après avoir enlevé les derniers vestiges de notre installation, ce qui n'est pas une petite affaire. D'ici là, nous ne devons pas nous voir. Et personne ne doit vous voir, Clotilde. Ne sortez pas. Je ne crains rien pour moi. Je crains tout dès qu'il s'agit de vous.
Il est impossible que cet Anglais parvienne jusqu'à moi.
Tout est possible avec lui. Et je me méfie. Hier, quand j'ai manqué d'être surpris par votre père, j'étais venu pour fouiller l'armoire qui contient les anciens registres de Monsieur d'Estange. Il y a là un danger. Il y en a partout. Je devine l'ennemi qui rôde dans l'ombre et qui se rapproche de plus en plus. Je sens qu'il nous surveille, qu'il tend ses filets autour de nous. C'est là une de ces intuitions qui ne me trompe jamais.
En ce cas, partez, Maxime, et ne pensez plus à mes larmes. Je serai forte, et j'attendrai que le danger soit conjuré. Adieu, Maxime.
Elle l'embrassa longuement, et ce fut elle-même qui le poussa dehors. Sholmès entendit le son de leur voix qui s'éloignait. Hardiment, surexcité par ce même besoin d'agir envers et contre tout qui le stimulait depuis la veille, il s'engagea dans une antichambre à l'extrémité de laquelle il y avait un escalier. Mais au moment où il allait descendre, le bruit d'une conversation partit de l'étage inférieur et il jugea préférable de suivre un couloir circulaire qui le conduisit à un autre escalier. Au bas de cet escalier, il fut très surpris de voir des meubles dont il connaissait déjà la forme et l'emplacement. Une porte était entrebâillée. Il pénétra dans une grande pièce ronde. C'était la bibliothèque de Monsieur d'Estange.
« Parfait! Admirable !»
murmura-t-il.
« Je comprends tout. Le boudoir de Clotilde, c'est-à-dire de la Dame Blonde, communique avec un des appartements de la maison voisine. Et cette maison voisine a sa sortie non sur la place Malesherbes, mais sur une rue adjacente, la rue Montchanin, autant que je m'en souvienne. À merveille! Et je m'explique comment Clotilde d'Estange va rejoindre son bien-aimé tout en gardant la réputation d'une personne qui ne sort jamais. Et je m'explique aussi comment Arsène Lupin a surgi près de moi hier soir sur la galerie. Il doit y avoir une autre communication entre l'appartement voisin et cette bibliothèque. » Et il concluait « Encore une maison truquée. Encore une fois, sans doute, d'Estange architecte. Il s'agit maintenant de profiter de mon passage ici pour vérifier le contenu de l'armoire et pour me documenter sur les autres maisons truquées.
Sholmès monta sur la galerie et se dissimula derrière les étoffes de la rampe. Il y resta ainsi jusqu'à la fin de la soirée. Un domestique vint éteindre les lampes électriques. Une heure plus tard, l'Anglais fit fonctionner le ressort de sa lanterne et se dirigea vers l'armoire. Comme il le savait, elle contenait les anciens papiers de l'architecte, dossiers, devis, livres de comptabilité. Au second plan, une série de registres, classés par ordre d'ancienneté, se dressait. Il prit alternativement ceux des dernières années, et aussitôt, il examinait la page de récapitulation, et plus spécialement, la lettre H. Enfin, ayant découvert le mot « Arminja », accompagné du chiffre 63, il se reporta à la page 63 et lut « Arminja, 40 rue Chalgrin ». Suivez le détail de travaux exécutés pour ce client en vue de l'établissement d'une calorifère dans son immeuble. Et en marge, cette note. Voir le dossier MB. « Hey, je le sais bien !» dit-il. « Le dossier MB, c'est celui qu'il me faut. Par lui, je saurai le domicile actuel de M. Lupin. » Ce n'est qu'au matin que, sur la deuxième moitié d'un registre, il découvrit ce fameux dossier. Il comportait 15 pages. L'une reproduisait la page consacrée à M. Arminja de la rue Chalgrin. Une autre détaillait les travaux exécutés pour M. Vatinel, propriétaire 25 rue Clapeyron. Une autre était réservée au baron d'Autrec, 134 avenue Henri Martin. Une autre au château de Crozon. Et les 11 autres à différents propriétaires de Paris. Sholmès copia cette liste de 11 noms et de 11 adresses, puis il remit les choses en place, ouvrit une fenêtre et sauta sur la place déserte en ayant soin de repousser les volets.